Daf Tzadik Tet Amud Aleph, en haut du Hamoud. Tanou Rabanan, on enseigne dans la Braïta, Yeriot Atartonot, Shel Techelet, Veshel Argaman, Veshel Tola, Chani, Veshel Shesh. Les tentures du bas, donc le Mishkan avait plusieurs, était couvert de plusieurs couches. La première couverture, c'est ce qu'on appelait Mishkan, justement. Et c'était des tentures qui étaient faites en laine, teinte en Techelet, Argaman et Tola, Chani, et avec du lin aussi. Ve'elyonot shel ma'aseh izim, et les tentures qui étaient au-dessus, qu'on appelle le ohel, étaient faites en poil de chèvre. Ugdola chokhma shenemra ba'elyonot yoter ma shenemra batartonot. Et le savoir-faire dont on parle à propos des tentures du haut est plus grand que celui dont on parle par rapport aux tentures du bas. De'ilu batartonot k'tiv v'chol isha chachmat lev be'yadeh tavu, parce que concernant les tentures du bas, c'est écrit Vechol Isha Chachmat Lev Beyadeh Tavu. Toute femme qui avait cette intelligence du cœur a filé avec ses mains. Veilu Ba'elyonot K'tiv Vechol Anashim Yasher Nasa Liban Notana Bechokhma Tavu Et Ha'izim. Alors que pour les tentures du haut, c'est écrit Vechol Anashim Yasher Nasa Liban Notana Bechokhma. Donc toutes les femmes que leur cœur les a portées par la Chokhma. Et Rashi explique que ça sous-entend une intelligence, un savoir-faire plus particulier. Donc Tavu et Taizim, elles ont filé les poils de chèvre. Vetania Mishum Rabbi Nechemia, et on enseigne à Breta au nom de Rabbi Nechemia, Chatouf Baizim Vetavu Iminaizim, ils rinçaient les poils quand ils étaient encore sur les chèvres, et ils les filaient encore sur les chèvres, donc c'était ça le savoir-faire particulier, le savoir former le fil avant de le couper, avant de le tondre de la chèvre. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Les Mefarshim expliquent que c'était pour que parce que le poil a plus d'éclat de cette manière-là, que si on le coupe d'abord et qu'après on file, et donc c'est pour ça qu'elle le faisait sur la chèvre elle-même. Shtei gezuzdraot vechoulé. On a vu dans la Mishnah que lorsqu'on a deux balcons qui se font face, et que on envoie un objet de l'un à l'autre, on est pas tour. Si on tend ou si on envoie un objet de l'un à l'autre, on n'est pas tour. Alors que s'ils sont sur la même sur le même côté du Reshout Arabim, si on tend, on est chayav. Si on jette, on est pas tour. Et on a vu qu'on apprend tous ces dinim là des chariots du Mishkan. Amar Rav Mishum Rabbi Chiya. Rav a dit au nom de Rabbi Chiya, Galot Tarten, Benem, Etziden, Reshut Arabim, les chariots, en dessous d'eux, entre eux et sur les côtés, c'est Reshut Arabim. C'était Reshut Arabim. Amar Abaye, Abaye a dit, Ben Agala la Agala, Kimlo Orech Agala. Entre un chariot et un autre, donc comme on avait expliqué, il y avait deux chariots qui avançaient parallèlement. Entre un chariot et un autre, des deux chariots qui avançaient parallèlement, il y avait la taille de la longueur d'un chariot. Vekama orech agala, et c'est combien la longueur du chariot? Chamesh amot, c'est 5 amot. Agmara demande l'amali, pourquoi est-ce qu'on a besoin de 5 amot de long? Berba ou palgasagi, ça devrait suffire même 4 amot et demi. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait deux manières possibles de poser les krashim sur les chariots. Soit on les posait sur leur largeur, et on en mettait 3 donc dans la longueur du chariot. Soit on les posait sur l'épaisseur, et là on pouvait en mettre 4 sur la longueur du chariot. Donc si on en mettait 3 et qu'on les posait sur la largeur, donc la largeur c'était une amma et demi, 3 krashim, ça fait en tout 4 amot et demi. Donc la Gemara demande pourquoi 5 amot, il suffit de 4 amot et demi. Et si on les met sur l'épaisseur, alors 4, si on met 4 krashim, ça fait 4 amot. Seulement, il faut prévoir une demi-amma supplémentaire à cause de l'espace des bagues. Il y avait des bagues sur les côtés des krashim. Et donc, ça prend de la place supplémentaire. Donc, une demi-amma en plus. Mais avec 4 amot et demi, ça suffit. Alors, pourquoi est-ce que les chariots étaient longs de 5 amot? Agmara dit qu'écrit des lois du trakou krashim. Pour ne pas que les krashim, les poutres du Mishkan, soient serrées. Ça veut dire, c'est vrai que si on les met sur la largeur, et on peut en mettre 3, et 3, ça fait a priori 4 amot et demi de large, Mais comme on voulait pas serrer les crachim, donc on laissait un petit peu d'espace entre les crachim, c'est pour ça que on a pris en compte des chariots d'une longueur de 5 amot. Amar Rava, Rava a dit, Sidé Agala Kimlo Rochav Agala. Les côtés des chariots faisaient la taille de la largeur du chariot. Donc, c'est-à-dire, le côté du chariot, il y avait la plateforme elle-même du chariot, et sur le côté, il y avait encore un espace jusqu'à l'extrémité de la roue. Donc, c'est-à-dire que les roues dépassaient sur les côtés. Donc, jusqu'au bout de la roue, à partir de la plateforme jusqu'au bout de la roue, c'était la même largeur que la largeur du chariot. Alors, quand on parle des côtés, ça veut dire les deux côtés, et à droite et à gauche du chariot, ensemble, ils font la même largeur que la largeur du chariot lui-même, c'est-à-dire de la plateforme du chariot. Mais Kamaracha Vagala, Shtehamot Umertsa. Et quelle est la largeur du chariot lui-même, de la plateforme du chariot lui-même? C'est 2,5 amot. Donc ça veut dire que de chaque côté il y avait 1 amma 1/4, donc en tout 2,5 amot, comme la largeur de la plateforme du chariot. La Gemara demande la Mali, pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2,5 amot? Be'amta ou Palga Sagia, il devrait suffire d'une amma et demie. Alors pourquoi? Rashi explique que si c'est parce que si on voulait mettre un kérèche dans le sens de la longueur, c'est vrai que normalement on les transportait dans le sens de la largeur, mais si jamais on voulait transporter un kérèche dans le sens de la longueur, donc il faut une certaine largeur pour pouvoir le rentrer. Il dit mais là il suffit d'une amma et demie parce que on peut le mettre sur l'épaisseur qui fait une amma. Il y a encore un petit peu d'espace, donc 1,5 amma de large devrait suffire. Ma réponse est écrit d'Elo Lidadou Krashim pour ne pas que les Krashim se balancent. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils soient suffisamment stables, vu que les Krashim faisaient en fait 10 amot de long. Donc si la plateforme du chariot était plus étroite que 2,5 amot, alors les Krashim se seraient balancés dessus, ils n'auraient pas été stables. La Gemara demande, elle a des Kaimalan, des Rechut Arabim, Shachestra Ama. Mais, ce qu'on a comme principe que la largeur du Rechut Arabim est au minimum de 16 amot. Anan, des Gabrinan, Lam, Mishkan, des Mishkan, Chamisaravai. Mais nous qui apprenons tout ça du Mishkan, dans le cas du Mishkan, le Rechut Arabim était large de 15 amot. C'est-à-dire, puisque on calcule sur la base, justement, des chariots, la place qu'ils occupaient dans le désert, lorsqu'on les faisait rouler avec les krachim, donc l'espace qu'ils occupaient c'était 15 amot, comme on vient de dire, puisque chaque chariot faisait en tout 5 amot de large avec les roues comprises, et l'espace qu'il y avait entre deux chariots était également de 5 amot, donc ça fait en tout 15 amot. Et Rashi explique que on compte pas la place qu'occupaient les krachim, parce que c'est vrai que les krachim qui étaient posés dessus, puisque chaque kérèche faisait 10 amot, et qu'il y avait des krachim sur les deux chariots, donc en tout ça occupait au moins 20 amot, et même un petit peu plus, parce qu'il fallait laisser un petit espace entre les krachim d'un chariot et les krachim de l'autre. Mais comme tout ça se passait au-dessus de Ditfahim, et qu'au-dessus de Ditfahim, de toutes les façons, on n'est plus dans l'espace du Rechut Arabim, puisque l'espace du Rechut Arabim ne monte que jusqu'à Ditfahim de hauteur, au-dessus c'est Makom Ptour, donc c'est pour ça que on calcule uniquement par rapport aux chariots, mais les chariots occupaient une place de 15 amot et pas de 16. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que la taille du Rechut Arabim c'est au minimum 16 amot de large? Ma réponse, Amta et Terta Avai, de Avakei Ben Levi, de Chimishtalfe, Krashim Avanakit Lehu. Il y avait une amas supplémentaire qui était en fait formée de une demi-amas de chaque côté, une demi-amas à droite du chariot de droite et une demi-amas à gauche du chariot de gauche, pour qu'un Lévi puisse se placer là-bas. Dans le cas où les krachim glissaient et allaient tomber, il allait les retenir, c'est-à-dire qu'il se tenait exactement à côté des roues du chariot, et il se mettait là-bas pour retenir les krachim qui risquaient de tomber. Ça veut dire que, comme on avait déjà expliqué, ils empilaient plusieurs krachim les uns sur les autres, puisqu'ils mettaient sur la longueur du chariot 3 ou 4 krachim, et il y avait 12 krachim par chariot, donc forcément ils en empilaient plusieurs. Et parfois les krachim pouvaient tomber, pouvaient glisser, les krachim qui étaient au-dessus pouvaient glisser et risquer de tomber dans l'espace qu'il y avait entre les deux, parce qu'on avait, comme on avait expliqué plus haut, on mettait en fait deux krachim collés à l'avant du chariot, deux crachim collés à l'arrière du chariot, et il y avait un espace d'une ama entre les deux groupes de crachim, et les crachim qui étaient au-dessus pouvaient tomber dans cet espace d'une ama, et donc il arrivait que le lévite doive les retenir, et pour faire ça, il se glissait en dessous des crachim, et il venait à côté du chariot, à côté de la roue du chariot, pour retenir les crachim. Donc cet espace d'une demi-ama, c'était destiné d'un côté et de l'autre à ce que le Lévi puisse se glisser là-bas. Donc c'est comme ça qu'on arrive à ces amot de large. La Mishnah dit « Chuliat Abor ve'asela shem gvoim asara ve'rochvan arba'a ». Donc Chuliat Abor, c'est Chulia littéralement, ça veut dire la terre qu'on a creusée d'un puits. Donc, mais ici c'est dans le sens d'un muret qui est autour du puits, sauf que à l'époque ils le faisaient souvent avec la terre qu'ils creusaient, qu'ils avaient enlevée du puits, ils l'entassaient tout autour du puits pour former un muret. Donc le muret du puits et ou un rocher qui sont Shem Gvoim Asara Verochban Arba, qui sont hauts de 10 fachim et larges de 4 fachim sur 4. Donc ils ont un statut de Reshut HaYachid. Hanotel mem vanotan al gaban chayav. Celui qui prend un objet qui se trouve dessus et qui les pose dans le Reshut HaRabim. Ou celui qui a pris un objet du Reshut HaRabim et qui les dépose au-dessus d'eux, ça veut dire sur le muret du puits ou sur le rocher, il est chayav, pachot miken patur. Mais s'ils font moins que ça, moins que dit fachim de haut, ou moins que une largeur de 4 fachim sur 4, on n'est pas tour, ça n'a pas un statut de Reshut HaYachid. La Gemara demande l'amali les mitnei chuliat abor vaasela, mitnei abor vaasela. Pourquoi est-ce que la Mishnah a enseigné, a parlé du cas du muret, du puits et du rocher? Elle aurait dû enseigner le puits et le rocher. Alors Rashi explique que c'est évident que si la Mishnah a donné deux exemples, c'est que un parle de la hauteur, l'autre parle de la profondeur. Si on a parlé d'un puits, c'est par rapport à la profondeur pour nous parler d'une profondeur de Ditfahim, non pas d'une hauteur de Ditfahim. Donc on n'est pas en train de parler par rapport à la hauteur du muret, mais par rapport à la profondeur du puits. Alors donc on aurait dû enseigner dans la Mishnah, à bord vaasela, on n'aurait pas dû parler du muret du puits, on n'aurait pas dû dire chuliat à bord, on aurait dû dire à bord tout simplement. Ma réponse. Mais ça y est, les Rabbi Yochanan, ça vient en aide à Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan a dit, Bor vechuliata mitstarfin la sara. La profondeur du puits et la hauteur du muret s'additionnent pour former dit fachim. Ça veut dire que, même si le puits lui-même n'est pas profond de dit fachim par rapport à la surface de la terre, il est profond que de 5 fachim, par exemple, mais que le muret qui est autour du puits a aussi une hauteur de 5 fachim. Donc, depuis le haut du muret jusqu'au fond du puits, il y a dit fachim, c'est considéré comme Reshut HaYachid. Et donc, c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner. Tanya Nami Achi, c'est également ce qu'on enseigne à Braïta. Bor Birshut HaRabim Amuka Asara ou Chavar Ba'a. Si on a un puits dans le Reshut HaRabim qui est profond de dit fachim et large de 4 fachim sur 4, En Memal'in Hemena Be'Shabbat, on n'a pas le droit de puiser de l'eau de ce puits pendant Shabbat, puisque ce puits se trouve dans le Reshut HaRabim, et qu'il est lui-même profond de dit fachim et large de 4 sur 4, donc il est Reshut HaYachid. Quand on puise de l'eau du puits et qu'on le pose à côté, donc on a sorti du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, donc c'est assaut. Et là, Inken Asulo Mechitsa Gavo Asarat Fachim, donc ce sera permis que si on a fait tout autour du puits une Mechitsa haute de dit fachim. Donc là, on a rendu tout le pourtour du puits Reshut HaYachid, et donc quand on sort de l'eau, on puise de l'eau et qu'on la pose à côté du puits, on la sort du Reshut HaYachid au Reshut HaYachid, c'est tout Reshut HaYachid. Ven shotin emena beshabbat ela imken nichnis la rosho verubo, et on n'aura pas le droit de boire dans ce puits, c'est-à-dire même si on ne puise pas l'eau et qu'on ne la sort pas à l'extérieur, donc il n'y a pas de problème de sortir du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, mais qu'on veut boire en mettant sa tête à l'intérieur du puits, c'est quand même assour, parce qu'on craint qu'il sorte l'eau à l'extérieur, et donc qu'il le sorte dans le Reshut HaRabim, et là, imken echnis la rosho verubo, sauf dans le cas où il a rentré sa tête et la majorité de son corps à l'intérieur du puits, là il aura le droit de boire à l'intérieur, parce que là on ne craint plus qu'il le sorte. ou bor vechuliata mitsarfin l'asara. Et la braïta conclut que la profondeur du puits et la hauteur du muret s'additionnent pour former d'itfachim. Donc ça correspond à ce que Rabbi Yochanan a dit. Ba'amine Rav Mordechai Merava. Rav Mordechai a demandé à Rava. Amud birshut arabim gavoa asara verachav arba. Si on a un poteau qui est dans le Rishut Arabim, qui est haut de d'itfachim et large de 4 fachim sur 4, vezarak venach al gabav mahu. Il a jeté un objet, il se trouve dans le Rishut Arabim, il jette un objet, l'objet se pose sur ce amud, sur ce poteau. Quel est le din? Mi'amrinan are akira beissour, are anacha beissour. Est-ce qu'on va dire qu'il a fait une akira interdite, puisqu'il fait akira du Rishut Arabim, il a fait une anacha beissour, la anacha s'est faite sur le Rishut Ayachid, donc il est khayab. Odilma, kevan de makom ptur katia, lo. Ou alors on va dire que comme ça traverse un makom ptur entre les deux, donc il ne sera pas khayab. Ça veut dire que comme forcément, pour se poser au-dessus du poteau qui a une hauteur de Ditfachim, donc l'objet doit traverser l'espace qui est au-dessus de Ditfachim, au-dessus du Rishut Arabim, et à cet endroit-là, c'est un makom ptur. Donc l'objet est passé par un makom ptur. Donc, il va pas être hayav. Alors, Tosfot pose la question, on a déjà vu plusieurs fois dans la Gemara, que même si l'objet traverse un makom tour, mais du moment qu'il y a eu Akira dans le Rishut Arabim et Anacha dans le Rishut Ayachid, ou l'inverse, on est hayav. Donc pourquoi est-ce que, ici, Rav Mordechai se pose particulièrement la question? Alors, Tosfot répond que, ici, c'est un cas différent des autres cas, parce que, dans les autres cas, on parlait de quelqu'un qui lançait un objet et que la force qu'il a exercée sur cet objet pour le jeter, elle continue à s'exercer même jusqu'à ce que l'objet redescende du makom tour dans le Rishut Ayachid ou dans le Rishut Arabim. Et donc, c'est pour ça que là-bas, c'était évident qu'il était khayav. Alors qu'ici, on parle de quelqu'un qui jette un objet en l'air et de manière oblique. Et donc, quand l'objet va retomber, c'est là qu'il va rentrer du makom tour dans le Rishut Ayachid. Donc là, c'est pas cette partie-là ne s'exerce pas par sa force, mais c'est en fait la pesanteur qui fait que l'objet retombe et qu'il va redescendre du makom tour vers le Rishut Ayachid. Donc on peut considérer ça comme quelque chose qui a coupé la akira de la hanacha, et donc c'est pour ça qu'il se pose la question ici. Amarle, Rava lui a répondu, Rava répond à Mordechai, Matnitini, c'est exactement notre Mishnah. Et la Gemara va expliquer après pourquoi est-ce que c'est notre Mishnah. Ata Shaile de Rav Yosef, Rav Mordechai a été ensuite posé la question à Rav Yosef, Amarle Matnitini, lui a dit aussi, c'est notre Mishnah. Ata Shaile de Abaye, Rav Mordechai a été posé la question à Abaye, Amarle Matnitini, lui aussi lui a dit, c'est notre Mishnah. Amar Lehu, il leur a dit, Kulchu Beroka Dadade Tafitu, est-ce que vous tous, vous crachez le même crachat? Ça veut dire, il n'était pas d'accord avec la preuve de la Mishnah, il dit, mais comment vous me donnez tous la même réponse, qui n'est pas une bonne réponse? Amroule Vat Lotisbera, ils lui ont dit, mais est-ce que toi tu n'es pas d'accord avec ça? Vatnan, pourtant, il dit dans la Mishnah, Hanotel Mehem, Vanoten Al-Gaban Chayav, que celui qui prend un objet donc du rocher ou du puits ou qu'il pose un objet dessus, il est khayav. Or là-bas aussi forcément, puisqu'on parle d'un rocher qui est haut de Ditfachim, donc c'est exactement le même cas que le cas de la question de Rav Mordechai, ça veut dire que là forcément l'objet va passer par le makom tour, et malgré tout c'est écrit qu'il est khayav. Alors Tosfot ajoute, puisqu'on a dit que la question était seulement dans le cas où il a jeté l'objet en l'air, et donc sa force ne s'exerce plus au moment où l'objet redescend du makom tour vers le Rishut Ayachid, ils ont compris que la Mishnah parlait aussi de ce cas-là. Amar Lehu, il leur a dit, non, la Mishnah n'est pas une preuve. Dilma matnitin bemachat. Peut-être que notre Mishnah parle du cas d'une aiguille, donc une aiguille c'est quelque chose de très fin, donc elle ne va pas forcément passer par le makom tour. La Gemara demande, machat nami, yefshar de l'omidalia pourta. Mais même une aiguille, il y a quand même une petite épaisseur, il faut forcément qu'elle passe un petit peu par l'espace du makom tour avant de se poser sur le Rishut Ayachid. Agmara répond, Deitle Morasha. Donc, il dit peut-être que on parle d'un rocher qui a morasha, ça veut dire qui a une aspérité sur le côté, en dessous de Ditfachim, mais comme le rocher est haut de Ditfachim est large de 4 sur 4, donc il est réchout à Yachid, donc même les aspérités qui sont sur le côté, même si elles sont en dessous de Ditfachim, qu'elles font pas 4 Fachim sur 4, mais ça s'appelle Choré Réchout à Yachid, les trous du Réchout à Yachid, qui sont tafel au Réchout à Yachid, et qui sont eux aussi considérés comme Réchout à Yachid. Donc c'est peut-être de ça qu'on a parlé dans la Mishnah, et c'est dans ce cas-là qu'il sera Chayav, et pas s'il l'a jeté au-dessus du rocher. Inami de Ramia Becharitza. Ou alors, autre possibilité, dans la Mishnah, on parle du cas où il l'a jeté par Charitza, il y avait une fente, il y avait une fente sur le dessus du rocher, et donc en fait, l'objet est rentré par cette fente et est monté au-dessus du rocher, à la hauteur de Ditfachim, donc il n'est pas passé par un Makom Tour, puisqu'il vient d'en bas, et il vient pas du dessus. Amar Rav Meyasha a dit, Baï Rabbi Yochanan a demandé, Kotel Birshut Arabim Gavoa Asara Veno Rachav Arba. Si on a un mur dans le Reshut Arabim qui est haut de Ditfachim, mais qui n'est pas large de 4 Fachim sur 4, donc l'épaisseur du mur fait moins de 4 Fachim, ou Moukaf le Carmélite va Asao Reshut Ayachid. Et ce mur entoure un Carmélite et le rend Reshut Ayachid. Ça veut dire que l'endroit qui l'entoure, au départ c'était un Carmélite, et une fois qu'on l'a entouré de ce mur, il est devenu Reshut Ayachid. Vezarak Venach Al-Gabav Mahu. Et qu'il a jeté un objet du Reshut Arabim, et que cet objet s'est posé sur, au-dessus du mur, quel est le din? Mi amrinan kevan deno achavarba makom ptourou. Est-ce qu'on va dire que comme l'épaisseur du mur est de moins de 4 fachim, donc c'est un makom ptour, et donc il est pas chayav, odinma kevan d'asao reshut ayachid, keman demalie damia. Ou alors on va dire, peut-être que, comme l'espace que ce mur entoure est devenu reshut ayachid, de Carmélite, il est devenu Reshut Ayachid. Donc, on va considérer comme si tout cet espace était rempli, et que finalement, l'intérieur est à la même hauteur que le mur, et donc le mur est large de 4 Tfachim maintenant, puisque il est à la même hauteur que l'intérieur. Amar Oula a dit, Kal vachomer, la Kherim Osem Echitza le Atzmo lo Kol Sheken. Si déjà pour les autres, il sert de mechitza, pour lui-même, est-ce qu'il va pas servir de mechitza? Ça veut dire, si déjà, en entourant cet espace à l'intérieur, il l'a rendu Reshut Ayachid, donc, à plus forte raison que lui-même va être considéré comme Reshut Ayachid. Itmar Nami, on a également enseigné, Amar Rabbi Chiya Barashi Amar Rav, Rabbi Chiya Barashi a dit au nom de Rav, Vechen Amar Bitzrak Amar Rabbi Yochanan, et c'est également ce que Rabbi Yitzhak a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kotel Birshut Arabim Gavoa Asara Veno Rachav Arba. Si on a un mur dans le Reshut Arabim qui est haut de 10 Fachim et qui n'est pas large de 4 Fachim sur 4, ou Moukaf le Carmélite va sao Reshut Ayachid et qu'il entoure un Carmélite et qu'il l'a rendu Reshut Ayachid, Azorek Venach Al-Gabav Chayav, celui qui jette un objet du Reshut Arabim et que l'objet se pose sur ce mur, il est Chayav. Pourquoi? La Kharim Ose Mechitza l'Atmo Lokol Sheken. Si déjà il sert de Mechitza pour les autres, c'est-à-dire pour l'espace qui est à l'intérieur, qui était Carmélite, et il l'a rendu Reshut Ayachid, est-ce que il ne devient pas forcément, à plus forte raison, lui-même Reshut Ayachid. Baï Rabbi Yochanan a demandé, Bor Tish'a Vakar Menu Chulia Veishlima Le Asara Mahu. Si on avait un puits qui était profond de 9 Tfachim, et que il a pris un morceau de terre du fond, et de cette manière, il a complété la profondeur du puits à 10 Tfachim. Maintenant, il est profond de 10 Tfachim. Quel sera le din par rapport à ce morceau de terre qu'il a sorti. Akira trefet zatsiat mechitza beade adade kaatu ou mechayev. Comme quand il a soulevé cet objet, donc ce morceau de terre, et le fait d'avoir une mechitza, puisque c'est ça qui a fait la mechitza haute de Ditfachim, ça vient ensemble, et donc il est chayav. On considère qu'il a sorti du Reshut Ayachid de Reshut Arabim. Olo mechayev. Ou alors est-ce qu'il sera pas chayav, puisque c'était pas encore Reshut Ayachid avant qu'il ait soulevé. C'est seulement en soulevant que ça devient Reshut Ayachid. Or, c'était pas encore Reshut Ayachid donc avant. Et, donc il sera pas Chayav. Veim Timtselomar Kevan Delo Ave Mechitza Asara Meikara Lo Mechayev. Et dans l'hypothèse où tu résous cette question en disant que, comme il n'y avait pas une Mechitza au Dodit Fahim avant qu'il soulève, donc il n'est pas Chayav. Alors, quel sera le din dans le cas suivant? Bor asara venatan et tocha chulia ou miata maou. Si on avait un puits qui était profond de dit fachim et qu'on met dedans un morceau de terre qui va diminuer sa hauteur et maintenant il va faire moins de dit fachim, quel sera le din dans ce cas-là? Anachat refet ve siluk mechitsa beade adade kaatu, michayev ou lo michayev. Là, le fait de poser cet objet et le fait d'enlever la mechitsa, que ce soit plus une mechitsa puisqu'elle va plus haute, la mechitsa ne va plus avoir la hauteur de dit fachim. Donc, ça vient en même temps. Est-ce que il est chayav ou est-ce qu'il est pas chayav? Ça veut dire que même si on résout le premier cas, ça veut dire que on pense que il est pas chayav dans le premier cas parce que au moment où il a soulevé, il n'y avait pas encore de mechitsa. C'est seulement après que une fois qu'il a soulevé, qu'il y a une mechitsa de dit fachim. Mais là, c'est le cas inverse. Ça veut dire que quand il commence à descendre le morceau de terre, il y a encore une mechitsa. C'est seulement une fois qu'il s'est posé que ça annule la mechitsa. Donc peut-être que dans ce cas-là, il sera chayav. L'agmara dit tifshot le medideh. On peut résoudre cette question d'un autre enseignement de Rabbi Yochanan lui-même. D'Etnan, parce qu'on enseigne dans la Mishnah, c'est la Mishnah suivante, Azorek arba amot bakotel le malam asarat fachim kezorek bavir. Celui qui jette un objet contre un mur à une distance de 4 amot dans le Reshut Arabim, si il l'a jeté au-dessus de dit fachim, sur le mur au-dessus de dit fachim, c'est comme s'il l'avait jeté en l'air, et donc il est pas tour. Les matam asarat kezorek baaretz. S'il l'a jeté en dessous de dit fachim, c'est comme s'il l'avait jeté par terre, vazorek baaretz arba amot chayav. C'est lui qui jette un objet à une distance de 4 amot par terre, il est chayav. Ve'avinanba, et on a demandé à propos de cette Mishnah, ve'alonach, mais pourtant l'objet ne s'est pas posé contre le mur, c'est-à-dire que il a jeté l'objet, même s'il l'a jeté en dessous de dit fachim, mais l'objet va rebondir et revenir en arrière, donc il n'aura pas traversé quatre amas dans le Reshut Arabim. Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit pour répondre à cette question, bidvelash menach aninu, on parle dans la Mishnah d'une figue qui est grasse et donc qui va se coller contre le mur et qui ne va pas revenir. Agmara demande va amai et pourquoi est-ce qu'il serait chayav dans ce cas-là? Akamema et merba amot, mais il va diminuer des 4 amot, c'est-à-dire que on comprend que la Mishnah parle aussi du cas où il y a exactement 4 amot de l'endroit où il jette jusqu'au mur et lorsqu'il va jeter la figue sèche et qu'elle va se coller contre le mur, donc elle va diminuer l'espace, il va rester moins de 4 amot. Et si on dit que dans ce cas-là il est chayav, donc c'est exactement comme le cas où il a retiré un morceau de terre c'est exactement comme dans le cas où il a rentré un morceau de terre dans le puits et qu'il a diminué la hauteur de dit fachim, donc si là-bas il est chayav, là aussi il sera chayav. L'agmara dit non, c'est pas pareil. Hatam lo mevatelle, hacha mevatelle. Là-bas, dans le cas de la figue qu'il envoie contre le mur, il ne l'annule pas au mur, donc ça peut pas diminuer ça ne diminue pas la longueur, puisque il a pas l'intention de laisser la figue sèche là-bas, donc c'est pour ça qu'il est chayav, parce qu'on la voit pas comme faisant partie du mur, donc ça peut pas diminuer l'espace, alors que ici, la terre qu'il rentre dans le puits va l'annuler au fond du puits, c'est-à-dire qu'il a l'intention de la laisser là-bas, et donc elle va faire partie du puits, donc peut-être que, effectivement, ça enlève de la hauteur du puits, et qu'à cause de ça, il est pas chayav. Bae Rava a demandé, Zarak daf venach agabe etedot maou. S'il a jeté une planche qui s'est posée sur des piquets, quel est le din? C'est-à-dire qu'on a des piquets haut de dit fachim dans le Reshut Arabim, mais ces piquets ne sont pas larges de 4 sur 4, et il pose dessus une planche, il jette une planche qui se pose dessus, et cette planche, elle fait 4 fachim sur 4, donc elle va être Reshut Ayachid. Quel est le din? Agma demande, Maïka Mevayale, qu'est-ce que Rava se demande? Anachat refet vasiat mechitsa baadeh adadeh kaatu, aïnu de Rabbi Yochanan. Si sa question c'est le fait que l'objet se pose et qu'en même temps ça forme la mechitsa, c'est ça qui va le faire Reshut Ayachid, est-ce qu'on est chayav ou pas? Ça revient exactement à la première question de Rabbi Yochanan. La question de Rabbi Yochanan dans le cas où il a enlevé un morceau de terre du fond du puits, qui ne faisait pas au départ dit fachim de profondeur, mais en enlevant ce morceau de terre, il complète la hauteur à dit fachim, la profondeur à dit fachim. Donc c'est exactement comme ici, où cet objet se pose et en même temps ça complète la mechitsa, ça en fait un reshut hayachid. Agmara dit qui kama varele les rabbins kigon des arak daf vechefetz al gabar. Agmara dit non. La question que Rava se pose, c'est dans le cas où il a jeté une planche avec un objet qui était posé dessus. Mike, quel est le din? Kivan de beade adadekat ou kanachat refez vatsiat mechitsa damu dami. Puisque ça vient en même temps, c'est-à-dire en même temps ça devient reshut hayachid et en même temps ça se pose. Donc c'est comme anachat refez vatsiat mechitsa. Donc c'est comme poser un objet qui va faire une mechitsa. Et donc ça revient à la question de Rabbi Yochanan. Odilma kivan de lo efshar de lo midla porta va adarnaïr kasiat mechitsa anachat refez dami. Ou alors on va dire que il n'est pas possible que l'objet qui est sur la planche ne se soit pas soulevé un petit peu et ensuite posé dessus. Donc on peut considérer que ça s'est fait en deux temps, que d'abord la mechitsa a été faite, c'est-à-dire que d'abord cet endroit est devenu reshut hayachid, et ensuite l'objet s'est posé dessus, et donc il sera chayav, teku, l'agmara dit que cette question n'est pas résolue.